Radio Prague, les informations.
Bonjour, la Commission européenne veut que la République tchèque rembourse 810 millions de couronnes de subventions. La République tchèque n'est pas prête face au vieillissement de sa population. Et puis une vingtaine de cinéastes tchèques, dont Miloš Forman, demandent la révocation du directeur des archives nationales du film. La Commission européenne exige de la République tchèque le remboursement de 810 millions de couronnes en raison d'un contrôle insuffisant du respect des règles liées aux subventions européennes entre 2010 et 2013. Ce mardi, le ministre de l'Agriculture, Martin Jurečka, a fait savoir lors d'une conférence de presse que son ministère allait se défendre par voie juridique. Selon le rapport suivant l'audit réalisé en République tchèque, l'inspection tchèque d'élevage n'aurait notamment pas contrôlé si les agriculteurs tchèques disposent d'un registre actualisé de leur bétail. Autre manquement, l'absence chez certains animaux de boucles de marquage aux oreilles permettant la traçabilité. Le ministre de l'Agriculture espère pouvoir au moins diminuer les sanctions. Si la République tchèque devait toutefois rembourser la somme due, elle ne ponctionnera pas les agriculteurs auxquels ces subventions ont déjà été versées, mais la prélèvera du budget de l'État. La République tchèque n'est pas du tout prête face au vieillissement de sa population et n'a pas de système de prise en charge des seniors sur le long terme, selon les représentants de la société médicale, du bureau de l'OMS et d'une association de petites structures hospitalières. Selon ces derniers, il n'existe à l'heure actuelle aucun système dans le pays qui combine services médicaux et sociaux permettant aux personnes âgées de rester autonomes et de vivre chez eux. De même, les financements des soins médicaux qui leur sont destinés font cruellement défaut, estime-t-il, appelant le gouvernement à mettre le pied à l'étrier pour régler cette situation. Selon les derniers chiffres de l'Institut tchèque de statistique, l'espérance de vie des Tchèques n'a cessé d'augmenter ces 15 dernières années, celle des hommes étant aujourd'hui de 76 ans et celle des femmes de 82 ans. Les services sociaux norvégiens ont retiré un nourrisson gravement malade et âgé de 9 mois à sa mère tchèque et à son père norvégien. Les autorités norvégiennes estiment que les parents n'auraient pas établi un lien assez fort avec leur enfant qui souffre d'une maladie génétique rare et est hospitalisé en vue d'une transplantation rénale. L'affaire a été révélée par la députée Jitka Chalankova du parti Top 09 qui fait partie du comité des affaires sociales de la chambre basse du Parlement. Ce n'est pas le premier cas d'enfant retiré à la garde d'un parent tchèque en Norvège. L'affaire des enfants Michalak, placés en famille d'accueil norvégienne, empoisonne les relations entre les deux pays depuis un certain temps. La police criminelle tchèque, en coopération avec des collègues polonais, a inculpé 19 personnes soupçonnées d'avoir fabriqué en grande quantité de la pervitine, cette drogue de synthèse mieux connue en France sous le nom de méthamphétamine et qui est la drogue dure la plus consommée en République tchèque. Au cours de l'enquête, la police a mis la main sur une cinquantaine de kilos de pervitine, 11 millions de couronnes en liquide et plus d'une dizaine de voitures. Selon le président de la police tchèque, il s'agit là de la plus grande opération antidrogue sur le territoire de la République tchèque et de la Pologne depuis un an. Une vingtaine de réalisateurs et de caméramans tchèques ont signé une lettre ouverte adressée au ministre de la Culture Daniel Herman, demandant la révocation de Michal Bregant, l'actuel directeur des archives nationales du film. Il lui reproche de compromettre des films tchèques d'importance en les distribuant dans des versions, je cite, « numérisées de manière primitive en République tchèque et à l'étranger ». Parmi les signataires de cette pétition, de grands noms du cinéma tchèque, comme les réalisateurs Miloš Forman, Ivan Paser, Jiří Menzel ou encore Jan Hřebejk. Le réalisateur Vojtěch Jasný a toutefois retiré son nom de la pétition. Pour l'heure, ni le ministère de la Culture ni les archives nationales du film n'ont réagi à la polémique. On termine par un mot de météo. Mercredi, jour de fête et d'État, le ciel sera couvert sur une majeure partie du pays avec des chutes de neige prévues en altitude. Les températures maximales oscilleront entre 1 et 5 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, c'est la suite du programme. Présenté par Alžběta Tichá.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour et bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Radio Prague, à l'écoute de ce magazine consacré à l'actualité tchèque. Merci d'abord à Anna Kubišta pour son bulletin d'information. Deux visites de diplomates étrangers à Prague sont au programme de ce mardi. On se penchera donc tout d'abord sur la visite de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Et on évoquera ensuite la rencontre du chef de la diplomatie tchèque, Lubomír Zaorálek, avec son homologue polonais, Witold Waszczykowski. Enfin, puisqu'on est mardi, la deuxième partie se poursuivra avec la rubrique Panorama, dans laquelle nous parlerons de l'Institut français de Prague. Bonne écoute à toutes et à tous. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a effectué une visite à Prague lundi. Ce passage a été l'occasion pour Federica Mogherini de saluer la position d'ensemble équilibrée et constructive du gouvernement tchèque dans sa coopération avec l'Union européenne, y compris dans la gestion de la question des réfugiés. Longtemps critiquée pour son hypocrisie dans le dossier des quotas obligatoires de répartition par pays, la République tchèque est aujourd'hui félicitée pour la consistance de sa politique et ce peut-être plus encore à la lumière de l'évolution de la situation en Allemagne voisine. Guillaume Narguet.
La visite de Federica Mogherini était prévue depuis un certain temps déjà. Initialement, la chef de la diplomatie européenne aurait dû venir en novembre dernier. À l'époque toutefois, elle avait annulé son voyage, officiellement en raison de la blessure à la jambe dont souffrait le ministre des Affaires étrangères, Lubomir Zaoralek, officieusement en réaction aux prises de position du président de la République tchèque sur la question de la crise migratoire. Quelques jours plus tôt, en effet, Miloš Zeman, que Federica Mogherini aurait alors dû rencontrer, avait participé notamment à un rassemblement aux côtés d'extrémistes du bloc contre l'islam. C'est donc près de 2 mois plus tard que l'ancienne ministre du gouvernement de Matteo Renzi s'est finalement rendue à Prague et après avoir été reçue d'abord par le ministre des Affaires étrangères, Lubomir Zaoralek, puis par le premier ministre, Bohuslav Sobotka, mais pas par le président Zeman, Federica Mogherini a souligné l'importance pour les États membres de l'Union européenne de rester soudés.
When we are united, we are much stronger together.
Quand nous sommes unis et que nous agissons ensemble, notre position dans le monde est beaucoup plus forte. Nous en avons eu la confirmation à plusieurs reprises l'année dernière, par exemple lors des négociations sur les changements climatiques.
Si cela était vrai pour les changements climatiques, cela ne l'a pas été en revanche pour la gestion de la crise migratoire et de l'accueil des réfugiés, de nombreux pays défendant des positions différentes. À Prague, lundi, tous se sont néanmoins entendus sur la nécessité de mieux protéger non seulement les frontières extérieures de l'Union européenne, mais aussi la sécurité à l'intérieur de celle-ci. Et Lubomir Zaoralek a profité de l'occasion pour rappeler la nécessité pour les 28 que la Turquie respecte l'accord signé à Bruxelles fin novembre pour mieux maîtriser le flux migratoire. L'Union européenne s'est engagée, rappelons-le, à fournir une aide de 3 milliards d'euros à la Turquie pour s'occuper des plus de 2 millions de réfugiés syriens qui se trouvent sur son territoire. Or, le ministre tchèque estime que pour l'heure, Ankara ne fait pas encore son travail.
Il me semble que les engagements pris par la Turquie n'ont pas encore été remplis et sont encore loin de l'être. Pourtant, le rôle de la Turquie est extrêmement important. Je la félicite pour sa capacité à accueillir un nombre aussi grand de migrants sur son territoire, mais l'intérêt des deux parties est de respecter et de faire ce qui a été convenu. Et sur ce point, il me semble que nous n'en sommes encore qu'au début.
De son côté, Bohuslav Sobotka a lui aussi insisté sur le rôle clé de la Turquie et réclamé auprès de Federica Mogherini que la Commission porte une attention toute particulière à la chose avant le prochain sommet européen en février. Enfin, le chef du gouvernement tchèque s'est dit prêt à soutenir les différentes mesures qui permettront de renforcer la politique extérieure et de sécurité commune, et ce afin de pouvoir limiter l'accès à l'espace Schengen et ainsi de lutter plus efficacement contre le terrorisme.
Crise des réfugiés, intégration économique régionale, sécurité. Il y a peu de choses sur lesquelles nous n'avons pas trouvé d'accord, a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomír Zaoralek, après la réception ce lundi de son homologue polonais, Witold Waszczykowski. Pour la première fois à Prague, ce dernier, membre du nouveau gouvernement formé par le parti conservateur Droit et Justice, a cependant dû également répondre aux critiques visant un projet de réforme des médias publics polonais. Plus de détails avec Pierre Maignan.
Prague et Varsovie ont la même analyse sur les solutions à apporter à la question des réfugiés. Il serait nécessaire de baisser le nombre de migrants qui entrent dans l'espace Schengen et de mettre en place un organe de surveillance opérationnelle de ces frontières extérieures. Sur la sécurité, les violons des deux capitales sont bien accordés. Le gouvernement, issu des élections parlementaires polonaises organisées en octobre dernier, défend une ligne atlantiste, position qui a également ses adeptes en Tchéquie. En conférence de presse, Witold Waszczykowski a ainsi estimé que la sécurité européenne devrait être garantie, pas seulement en coopération avec l'Union européenne, mais aussi, et peut-être surtout, dans le cadre de l'OTAN, dont les deux pays auraient selon lui intérêt à être des acteurs importants. Aussi, pour le politologue Lubomír Skopeček, interrogé par la télévision tchèque, le cabinet du social-démocrate Bohuslav Sobotka aurait plus d'atomes crochus avec le nouveau pouvoir en place à Varsovie qu'avec l'ancien gouvernement libéral d'Eva Kopacz.
Sur la question migratoire, il y a eu auparavant quelques décisions qui, selon certaines opinions, auraient pu menacer l'existence même du groupe de Visegrad. Je rappelle qu'il s'agissait d'un désaccord sur le thème des quotas obligatoires pour l'accueil des migrants. Le précédent gouvernement, mené par le parti de la plateforme civique, a décidé au dernier moment d'accepter ce système de quotas que refusaient la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie.
Outre cette thématique géopolitique qui confirme la réticence des pays d'Europe centrale à contribuer à l'accueil des réfugiés, le ministre polonais n'a pas oublié d'évoquer le chapitre économique où tous les voyants sont au vert puisqu'il a rappelé que la Tchéquie est le deuxième plus important partenaire économique de la Pologne après l'Allemagne et qu'elle devrait le rester. Dans la capitale tchèque, Witold Waszczykowski n'a cependant pas pu éviter les controverses déjà nombreuses auxquelles fait face son gouvernement parfois qualifié d'ultra-conservateur. Plus tôt dans la journée de lundi, il avait ainsi reçu, après convocation, l'ambassadeur allemand en poste en Pologne qui devait répondre de propos jugés anti-polonais tenus par plusieurs politiciens allemands. Après des polémiques portant sur des réformes de la Cour constitutionnelle et des services de renseignement, Varsovie fait désormais l'objet de vigoureuses critiques pour un projet de loi sur les médias publics. Le chef de la diplomatie polonaise a commenté.
Nous corrigeons un système médiatique qui s'est avéré dysfonctionnel ces dernières années. Nous voulons que les médias publics, les seuls concernés par la réforme, soient des médias ouverts aux larges débats politiques qui ont cours en Pologne.
À l'inverse des voix qu'on peut entendre à Bruxelles et ou dans différentes capitales occidentales qui disent craindre pour l'état de droit en Pologne, certains évoquant un risque d'orbanisation en référence au premier ministre hongrois, les politiciens tchèques restent plutôt mesurés. Lubomír Zaorálek a bien illustré cette tendance en veillant bien à ne pas froisser son invité du jour.
J'ai confiance dans le fait que la démocratie polonaise va fonctionner de telle sorte que l'opposition politique disposera d'un espace pour exprimer ses opinions. Tout simplement, je pense que la Pologne, qui a derrière elle plusieurs années d'une évolution positive, est en mesure de supporter un changement du gouvernement. Pour ma part, je n'ai pas de doute sur le fait que la liberté d'expression perdure en Pologne.
Quoi qu'il en soit, le ministre tchèque estime que les deux pays devraient s'appuyer sur les éléments qui les rapprochent plutôt que de s'écharper sur leurs oppositions, au rang desquels on compte par exemple un conflit frontalier mineur en passe d'être résolu ou encore un débat récurrent sur les produits alimentaires polonais dont la qualité est parfois mise en doute côté tchèque.
C'est ainsi que s'achève ce faisait événement. Merci de votre attention. Dans la deuxième partie de notre émission, nous vous présenterons, comme chaque mardi, la rubrique Panorama. Début octobre, de nouveaux espaces dédiés à la médiation numérique ont été inaugurés dans le hall d'entrée entièrement rénové de l'Institut français de Prague. Ce nouveau dispositif, encore très nouveau à l'échelle des instituts français en Europe, complète les installations du même type déjà effectuées à la médiathèque du Centre culturel français de la capitale tchèque. Depuis, une programmation numérique inédite et gratuite est mise chaque jour à disposition du public. Respectivement directrice et chef du pôle marketing et communication de l'Institut français de Prague, Isabelle Guinel et Clara Welflinger en ont dit un peu plus sur ces nouveaux services au micro de Guillaume Narguet. Il s'agit d'une rediffusion du 1er décembre 2015.
Panorama.
Panorama.
Bien, nous souhaitions que tous les visiteurs, tous les publics de l'Institut, dès l'entrée, puissent découvrir tous les espaces, c'est-à-dire qu'ils aient une vue sur l'accès au cinéma, au Kino 35, sur l'accès au café, sur l'accès à la galerie, sur l'accès aux cours. Et nous avons fait appel pour ça à des jeunes architectes tchèques, des architectes qui ont été formés à la CVUT avec lesquels nous sommes en partenariat.
Nous sommes aussi également en face de trois nouveaux écrans. Et Clara, vous allez nous expliquer qu'il s'agit là d'une première à l'échelle des instituts français.
Tout à fait. Donc nous disposons de trois écrans tactiles, donc des écrans LCD, qui permettent d'avoir une signalétique interactive. C'est-à-dire que dès l'accueil, les personnes peuvent toucher en fait ces écrans pour consulter directement le programme du cinéma. Donc ils vont retrouver par exemple l'affiche de tous les films qui sont projetés en ce moment. Ils vont pouvoir entrer dans ces fiches pour voir les bandes-annonces, pour consulter les synopsis et pour savoir exactement à quel moment ce film va être programmé dans notre salle. Ils vont trouver également des informations sur les cours de langue et sur les certifications de langue française, c'est-à-dire l'intégralité de l'offre de cours avec un descriptif, le tarif, les dates d'inscription et éventuellement les nouveautés. Ils vont également pouvoir s'informer sur Culture Tech, la bibliothèque numérique mise à disposition par l'Institut français de Paris et le ministère de la Culture, et sur l'IFPAS, qui est notre carte membre qu'on a lancée en janvier 2015.
Madame la directrice, dans quelle mesure ces nouveautés étaient importantes, peut-être essentielles dans le développement de l'Institut ?
On a deux jeunes publics ici, hein, de 15 à 35 ans. Ils veulent pouvoir tout de suite avoir non seulement les informations qu'ils recherchent, que ce soit le calendrier, le prix. Ils veulent pouvoir le prendre en photo pour l'amener chez eux. Ils veulent pouvoir découvrir aussi ce qu'ils ne sont peut-être pas venus chercher au premier abord. Donc tout ça doit être accessible et tout ça doit être réactualisé en permanence.
Quels sont les autres nouveaux éléments, on va dire, de ce hall ?
Alors là, c'est plutôt, nous avons vu des écrans qui sont consacrés à l'offre de l'Institut français de Prague et à des plateformes numériques que nous utilisons couramment. Mais nous voulions aussi avoir un outil qui soit plus interactif, que nos partenaires tchèques puissent utiliser avec nous. Et c'est cet espace de projection qu'on appelle la lucarne. Alors la lucarne, le matin, elle montre les affiches des films, ce qui est en cours à la Galerie 35. Elle montre notre programmation aussi hors les murs de l'Institut. Là, en ce moment, le matin, généralement, c'est la présentation de notre programmation, que ce soit la programmation cinéma, que ce soit la programmation des festivals de musique que l'on soutient en dehors de Prague. Et l'après-midi, la lucarne est consacrée à des produits, des ressources numériques qui nous viennent de France. En ce moment, la ressource qui vient de France, c'est en préparation de la COP21. C'est le film de Yann Arthus-Bertrand qui est fantastique, qui a des images époustouflantes.
Quelles seront les autres choses que vous pourrez faire découvrir à votre public ?
Alors là, par exemple, on a également accès à des concerts. On a également accès à l'œuvre d'un vidéaste qui s'appelle Bertrand Lamarche et qui accompagne aussi cette thématique sur le climat. On va également pouvoir montrer l'application de Dassault System Paris 3D qui reconstitue Paris au Moyen-Âge. Et donc toute cette offre est disponible en libre accès tous les après-midi. Donc en fait, les visiteurs peuvent s'adresser à Petr pour récupérer un casque par exemple, ou pour avoir des informations sur la manière dont s'orienter à l'intérieur de l'application, pour pouvoir consulter les vidéos qui les intéressent. Et ces contenus sont prolongés dans l'espace de la médiathèque, où on va retrouver sur la Smart TV qui a été installée au printemps, les interviews d'experts, par exemple, sur la thématique du climat, ou simplement des vidéos de la Cité des Sciences, d'Arte, de les conférences du Collège de France. Voilà, toute une foule de contenus qui sont à leur disposition.
Peut-on dire qu'avec toutes ces nouveautés, finalement, l'Institut français s'est mis à l'heure du 21e siècle, parce que nous sommes dans un bâtiment qui a une longue histoire, auquel les Tchèques, mais aussi les Français qui vivent à Prague ou en République tchèque sont attachés. Mais avec ces nouveautés, peut-on dire que c'est vraiment une grande avancée pour l'Institut ?
Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est des applications qui sont simples, qui sont aisément manipulables. Ça nous permet, par exemple, dès qu'il y a un événement avec des classes tchèques, de pouvoir travailler plus en interactivité. Alors là, je voudrais vous en donner un exemple. Bien sûr, on projette les ressources numériques françaises, mais en même temps, nos partenaires peuvent agir avec nous dessus. L'écran est interactif et les professeurs de français peuvent non seulement expliquer ce qui est montré, mais en plus peuvent faire leurs propres commentaires et les écrire directement sur le mur. Il se trouve qu'après l'inauguration, quand on a exposé cet outil, dès le jour même de l'inauguration, on a eu 4 offres de partenariat. Je ne m'y attendais pas vraiment parce que immédiatement ils ont vu à quel point ils pouvaient être partie prenante. Et c'est aussi un peu ça l'objectif. C'est que non seulement on montre des nouveautés, mais on noue des partenariats qui sont innovants pour après les faire remonter à Paris et leur dire voilà comment c'est utilisé en République tchèque, voilà quels nouveaux projets on peut, grâce à ces ressources, mettre en œuvre. Donc ça se passe dans les deux sens.
Par rapport à votre question sur l'intérêt et sur le succès des installations, en fait, ce qui est évident, c'est que tout de suite, les gens ont envie de toucher. Donc, dès le 1er octobre, lors de la soirée, très rapidement, en fait, les espaces étaient envahis et tout le monde mettait le doigt dessus pour faire des dessins, pour écrire. Également, les jeunes enfants. Donc, cet aspect ludique, en fait, fait que ces installations sont accessibles et qu'on ait envie, justement, de voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, c'est la fin de ce programme qui vous était présenté par Alžbeta Tichá. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague, www.radio.cz/fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy!